pertinente, intelligente, énergique et souriante. Voici l'effet. L'effet Normando. Réseau Cogeco. Voici l'effet Normando avec Nathalie Normando.
En ce vendredi 3 décembre, je vous souhaite une excellente journée, un bon début de fin de semaine, c'est commencé de votre côté. Pour notre 10 à midi, je vous propose trois sujets aujourd'hui. Le premier, dans la foulée du décès de M. Richard Genet, cet homme de Sainte-Terre qui fait énormément jaser. Il s'est buté à une porte fermée, CLSC, urgence, enfin bref, malheureusement, il est décédé. Je vous demande, craignez-vous de ne pas être soigné? C'est notre question en ouverture de cette émission, en cadre de l'ouverture de cette émission. Nous aurons deux invités pour nous guider sur cette question. Est-ce que vous craignez de ne pas être soigné? Êtes-vous trop dans la performance? Un texte paru dans l'actualité qui a retenu mon attention. Êtes-vous trop dans la performance dans la vie? Ça peut être dans toutes les sphères de votre vie, auprès de vos enfants, face à votre conjoint, le ménage, au travail, dans votre vie personnel lorsque vous exercez du sport, par exemple. Et 11h35, on va terminer cette émission en ce vendredi. On va mettre un peu de positivité dans notre vie. Qui est votre personnalité publique de l'année? Notre question s'inspire d'un palmarès réalisé toujours par le magazine L'Actualité. À chaque année, depuis quelques années, L'Actualité fait le bilan de ce qu'elle estime être les personnalités qui ont pu marquer positivement, on s'entend, le Québec. Alors, je vous laisse du temps un peu pour réfléchir. Je vais vous confier tout de suite sur ma personnalité de l'année pour moi. Elle n'apparaît pas dans le palmarès de l'actualité, c'est Leïla Fernandez. Peut-être que ça vous dit quelque chose, cette jeune qui nous a tous épatés au tennis. Elle était finaliste du US Open, du Grand US Open, les internationaux de tennis des États-Unis. Elle nous a littéralement jetés à terre. On a découvert une personnalité, une jeune femme extrêmement attachante, une personnalité dynamique, énergique, qui au-delà de la pratique de son sport, s'est révélée être extrêmement attachante et authentique. Les coordonnées pour nous joindre, le 98-98-5, c'est notre courriel ou encore le... Non, pas le courriel, ça, c'est le texto. Et le courriel, c'est le nathalie@98.5fm.ca. Avant de plonger dans notre premier sujet, une nouvelle qui a été publiée il y a quelques minutes dans la presse, rien ne va plus dans le conflit qui oppose les éducatrices en service de garde et le gouvernement. Je dis rien ne va plus parce que là, on apprend que ce matin, vers 11h, après la CSN, c'est au tour de la CSQ de déclencher une grève générale illimitée. Ce déclenchement fait en sorte que d'autres CPE seront fermés, d'autres enfants, malheureusement au Québec, seront probablement privés de services de garde au cours des prochains jours. Et ce qu'on peut dire, c'est que la pression de plus en plus grande sur le gouvernement face... cette pression fait en sorte que les parents là deviennent à chaque jour qui passe de plus en plus impatients de voir aboutir un règlement entre les parties. Alors, plutôt que... Moi, je trouve ça triste parce que plutôt que de s'améliorer, le climat, je dis bien, semble s'envenimer. Alors, comme on dit en bon québécois, croisons les doigts, touchons du bois pour qu'effectivement, il y ait dénouement de cette crise, de cette grève, devrais-je dire, qui pourrait se transformer et qui s'est déjà transformée en crise pour bien des parents, ne sachant pas trop où faire garder leurs enfants. C'est vraiment un casse-tête là, pour des milliers de parents au Québec. Alors, si vous le voulez bien, on plonge dans notre premier sujet. Craignez-vous de ne pas être soigné? On va débuter cette conversation avec Guillaume Langlois, les médecins de famille à Bécancour, habitué de cette émission. Bonjour à vous, Dr. Langlois.
Oui, bonjour.
Si vous permettez, on va entendre un extrait d'une entrevue qu'a accordée la mairesse de Sainte-Terre. Elle s'appelle Nathalie-Anne Pelcha. Elle a accordé une entrevue cette semaine à Paul Arcand, 98.5, à propos de ce triste événement qui a marqué les esprits partout au Québec.
Là, on parle d'un décès, mais depuis la fermeture, il est arrivé plein d'événements. Sauf que là, ce décès-là, c'est un de trop. On le savait que ça allait arriver. On ne souhaitait pas. Les gens se croisaient les doigts tous les jours. Je pense que les gens ont quasiment recommencé à faire des prières tous les jours pour pas que ça arrive. Et on s'est toujours dit qui va être la première victime. Et malheureusement, c'est toute une famille en deuil. Et je vous dirais toute une communauté en deuil.
Faut le faire, hein? La mairesse qui dit, là, ben, on prie et on se demande qui va, on se demandait à quel moment ça allait arriver. On savait que ça allait arriver. Je vous rappelle le contexte. Richard Genet, un homme de 65 ans qui est décédé à Sainte-Terre en début de semaine. Bon, faut savoir que le coroner, le bureau du coroner va faire la lumière sur son décès. Son frère Jean Genet a pris la parole dans l'espace public. Il a relaté ce qui s'est passé. Il dit « Mon frère a ressenti des malaises au cours de la journée de lundi. Il aurait aimé consulter vers 17h30 la veille de sa mort, mais voyant que l'urgence du CLSC de Sainte-Terre était fermée, il a décidé d'attendre au lendemain matin. C'est là que sa situation par la suite s'est détériorée, en fait, au cours de la nuit. Il a appelé une ambulance qui a mis 1h10 à arriver chez lui. L'ambulance était à Barraute, une trentaine de kilomètres de la maison. Et malheureusement, il est décédé. Il avait besoin de soins de façon urgente. Il est décédé. Vous comprendrez que le gouvernement est sur la défensive depuis cette triste nouvelle. Les autorités médicales là-bas également, les gestionnaires du CIS également. Alors, rien ne va plus, comme on dit, pour ce qui est de ce dossier-là. Bon, le coroner va faire la lumière. On en saura davantage. Mais, Dr Langlois, lorsque j'ai vu cette nouvelle cette semaine, je me suis dit, lorsqu'on est un médecin qui pratique à l'extérieur des grands centres, comment vous avez reçu une nouvelle comme celle-là, vous qui pratiquez à Bécancour dans la région de la Mauricie?
Bien, c'est sûr que c'est toujours dramatique, là. Puis à chaque fois là, qu'il y a un décès comme ça, c'est sûr qu'on se pose la question, on se demande est-ce que ça aurait pu être évité ou pas. Bon, dans ce cas-ci, je peux pas me prononcer, mais c'est sûr que si c'est vraiment un anévrisme de l'aorte qui a fait, là, ben ça, quand ça rompt, là, c'est le décès, là, une fois que c'est rompu, ça peut être en quelques minutes, donc très rapide. Mm-hmm. Malheureusement, le fait qu'il n'ait pas consulté la veille, je pense que c'est peut-être là le problème, parce que c'est un diagnostic qui est difficile à faire. Hein. De toute façon, là, c'est il y a 1250 à peu près décès dans tout le Canada là, d'anévrisme là, par année. Mm-hmm. Puis là, je dis pas que c'est ça qu'il a fait. Là. J'ai pas accès au dossier, mm-hmm. l'information. Là,
sans parler de ce cas en particulier, parce qu'il nous inspire quand même. Ce cas-là est nous a inspiré notre question, parce qu'on s'est dit, peu importe où on vit au Québec, lorsqu'on voit ce genre d'événement, là, je sais qu'il y a des gens dans l'Est du Québec qui sont inquiets. L'hôpital de la Chine a vu l'urgence de l'hôpital de la Chine a vu fermer, avait fermé de la nuit et le soir. Alors, on se dit, personne n'est épargné, on a l'impression, dans cette triste histoire. C'est-à-dire qu'on est tous un peu... Quand je dis personne n'est épargné, c'est-à-dire que on sent que notre réseau de la santé est fragile.
Oui. Est-ce que vous... Il est de plus en plus, puis on voit aussi que, comme chez nous, là, à Sainte-Gertrude, le village dans lequel je travaille, là, ça prend là, minimum 20 à 40 minutes là, l'ambulance pour arriver, même dans les cas les plus urgents, quand tout va bien. Après ça, ben, ça prend une demi-heure au moins là, se rendre à l'hôpital. Donc, on est un peu dans la même situation, puis on est au centre du Québec. Pourtant, on est à mi-chemin là, entre Québec et Montréal. Là. On n'est pas dans Brousse, là. Mais donc, j'ose pas imaginer ce que vivent les gens là, dans des régions un peu plus loin que chez nous. C'est sûr que c'est paniquant. Puis, dans des décès, malheureusement, s'il y en a pas eu là, il va y en avoir à cause du manque de soins, que ce soit parce que les gens n'ont pas accès pour aller consulter quand c'est le temps, ou avoir la prévention, le dépistage requis, parce que ça, ben, à partir de 65 ans pour les anévrismes, on peut faire un dépistage là pour voir si des gens sont à risque là, de développer une complication, mais il faut avoir accès à un médecin, puis ben, après ça, dans l'urgence, évidemment, il faut avoir des soins rapidement. À Montréal, c'est pas un problème, là. L'ambulance va arriver là, en moins de 10 minutes. Par contre, dès qu'on s'éloigne un peu, il y a des couvertures, puis plus on va loin, bien là, plus les temps s'allongent. Et clairement, si c'est pas là, il va y en avoir des décès là, qui vont être vraiment dus à la pénurie de main-d'œuvre que nous, on vit depuis 25 ans. Là. Ça fait 25 ans qu'on est en désavantage numérique, là. Mais là, on dirait que ça s'aggrave en même temps que partout dans le reste de la société. Puis là, ben, il va falloir augmenter là, le nombre de personnes, d'informations, de joueurs, parce qu'on va revivre la même situation dans 2 ans, dans 5 ans. À la date, on fait juste déplacer les professionnels d'un endroit à un autre. Après ça, on dit, ben, ça prend plus de médecins d'un bureau. Après ça, on va dire, ben là, ça va prendre moins de médecins d'un bureau, plus d'insurgences. Mais de juste déplacer les joueurs, ça fait des trous ailleurs.
Oui, mais parce que c'est quand même triste de dire, si on n'est pas collé à un hôpital, on est d'une certaine façon à risque. Il y a une auditrice qui nous écrit, Lynn, pour les personnes vieillissantes, il serait indiqué de vivre autant que possible près des grands centres dû au fait que beaucoup de travailleurs de la santé qui refusent de travailler en région. Mais malheureusement, c'est pas possible pour tout le monde de vivre à proximité d'un hôpital ou d'organismes ou enfin de d'établissements qui offrent des services dans le domaine de la santé. Alors, dans le fond, puis là, vous avez peut-être vu, Dr Langlois, le gouvernement est prêt à mettre 30 000 $ de primes sur la table pour inciter les infirmières à aller travailler en région. Fait que on offre énormément d'incitatifs pour dire aux gens aller travailler en région, mais en même temps, on fait face à ce genre d'événement auquel on a assisté, c'est-à-dire le décès d'un homme de 65 ans. Il s'est buté une porte fermée. L'urgence de son CLSC, c'était terminé, là. C'était fermé. Alors, mais il n'y a pas... vous, comme médecin, comme professionnel de la santé, est-ce que vous craignez d'être confronté à ce genre de situation dans votre pratique au quotidien?
Bien, c'est sûr que oui. Nous, par contre, on a réglé le problème chez nous là, il y a 6 ou 7 ans, quand on s'est rendu compte que même dans les urgences, justement, on a eu 2 décès là, en dedans de 2 semaines tragiques. Là, puis l'ambulance, justement, ça a pris entre 25 et 30 minutes à arriver. Donc, chez nous, on a instauré là un projet de premier répondant. Donc, la plupart des appels ont réussi à y aller en dedans de 10 minutes. Là. Donc, on arrive avant l'ambulance à chaque fois. Fait que dans notre région à nous, on a trouvé une solution locale pour pallier à notre problème. Fait que donc, je pense pas qu'on... En tout cas, à ce moment-là, ben là, on vient de réduire un peu le problème là, du temps d'arrivée de l'ambulance, mais dans plein des régions, il n'y en a pas, malheureusement, de premiers répondants. Il y en a qui n'en ont pas besoin. C'est sûr qu'à Montréal, l'ambulance va arriver plus vite qu'une équipe là, de bénévoles à leur maison. Par contre, quand il y a 30 km de route à faire, ben c'est bien certain que pour l'ambulance, là, ben là, à ce moment-là, les gens locaux peuvent se prendre en main. Il y a des programmes qui existent avec le ministère de la Santé. Nous, on a fait affaire avec la ville de Bécancour, les pompiers, des citoyens, puis on s'est pris en main sur ce côté-là. Par contre, on peut rien faire de plus. Là, on en a eu là un anévrisme de la aorte à un moment donné, puis même si on était là en moins de 10 minutes, on n'a rien pu faire. Là. Une fois que c'est rompu, puis peu importe le délai d'action, on a beau défibriller, on a beau donner les chocs cardiaques ou peu importe, là, des fois, il est trop tard, puis on peut rien faire, mais au moins, nous, on s'est enlevé un peu cette idée-là, là, est-ce qu'on aurait pu faire quelque chose? Est-ce qu'on est arrivé trop tard? Qu'est-ce qui serait arrivé si on était arrivé plus tôt? Ben, au moins, les familles n'ont pas à vivre ce déchirement-là puis ce questionnement-là. Donc, au moins, ben, des fois, il y a des vies que ça a sauvées, puis sinon, ben, ça aide à faire le deuil. Mais dans chaque région comme ça, ça prend des solutions adaptées. Puis, il est vraiment, là, va falloir que le gouvernement pèse sur l'accélérateur pour donner plus de pouvoir dans chaque région. Nous, ça a pris 1 an et demi, 2 ans, monter notre système de premier répondant, là, juste remplir la paperasse, avoir les réponses. Pendant ce temps-là, il y avait d'autres appels puis d'autres cas qui survenaient dans notre village. Donc, ça prend des modèles simplifiés, puis avoir aussi un accès là, comme direct, être capable de répondre vraiment à des besoins plus précis dans notre région à nous. C'est pas la même chose parce qu'on est quand même juste à 1 demi-heure de l'hôpital dans le pire des cas. Donc, c'est pas la même chose que quand tu es à 1 heure et demie de route. Donc, c'est pas le même système de premier répondant qu'on devrait avoir. Mais comme côté adaptation, il y a encore beaucoup de simplification qui devrait être fait. Même si ce qui se fait là, c'est déjà extraordinaire. Chez nous, c'est une belle victoire. D'autres régions l'ont fait aussi, c'est des belles victoires. Mais on a un village à 7 minutes de chez nous parce qu'il est dans un autre réseau de santé. On peut pas recevoir les appels. Je parle systèmes comme ça, là, fait, moi, ben, j'habite à côté. Là, dans le fond, ma cour donne sur l'autre village. Parce que j'habite à l'extérieur là, du village, puis ben c'est ça, on reçoit pas, je peux pas recevoir les appels, c'est un autre système, c'est un autre modèle, puis
c'est fou. Une autre ville. Docteur Langlois, David réagit, les premiers répondants, d'ailleurs je salue les premiers répondants qui sont à l'écoute ce matin, les municipalités doivent commencer à avoir des premiers répondants, évidemment, puis l'information que donnent aussi les gens aux ambulanciers est importante, peut faire la différence dans une intervention, souvent ça se joue par quelques minutes. Autre réaction d'un auditeur qui habite à Gaspé, il dit on a un hôpital avec plusieurs spécialistes et un service ambulancier efficace, par contre pour les cas les plus graves et spécialisés, on les transfère à Québec en avion ambulance. C'est certain que le temps joue contre nous dans les cas les plus graves. Autre réaction, ça n'a aucun sens, Nathalie, notre système de santé est déficient, ça prend une réforme. Combien de décès ça va prendre? Même une question, c'est même pas une question d'argent, c'est souvent une question d'organisation. Vous venez de le dire, Dr Langlois, ça vous a pris 1 an et demi à 2 ans d'approbation du ministère de la Santé pour vous permettre de déployer vos premiers répondants sur votre territoire.
Oui, c'est compliqué. Puis là, quand on en veut des nouveaux, ben là, les former, les nouveaux, ça aussi, c'est compliqué parce qu'on n'est pas des gros milieux, là. Fait que si on a deux ou trois premiers répondants, ben là, c'est difficile de leur trouver des cours, des formations. Mais à l'ère où on est, là, avec Internet, je peux pas croire que s'il n'y a pas des bouts qui peuvent se faire en téléconférence ou de, les gens sont prêts à se déplacer dans une autre région pour faire leur formation. Mais c'est tous des moyens, là, qui pourraient vraiment être revus. Par contre, ça sauve pas tout, hein, les premiers répondants. Ceci dit, on a quand même des vies de sauver, là. Puis, je pense à des réactions allergiques graves, là. Ben, quand ça prend 30 minutes à l'ambulance d'arriver avant d'administrer une épipène, quand c'est un premier épisode, la personne n'est pas au courant, nous, ça nous est arrivé. Ben, c'est une de nos médecins, là. En fait, c'est Magali, ma femme, là, qui a répondu en dedans de 6 minutes, elle y a donné l'épipène. Puis, une fois que l'ambulance est arrivée, là, le problème était réglé, là. Mais sinon, ben, ça aurait peut-être été une réanimation, il y aurait peut-être été en arrêt, là, respiratoire, en arrêt cardiaque.
Oui, bien tristement. Docteur Langlois, vous demeurez avec nous. Réactions de nos auditeurs sont nombreuses. Hein? Je voulais partager ça avec vous. Je suis paramédic sur la Couronne Nord et croyez-moi, ça peut être très long pour avoir une ambulance. Autre réaction, même à Montréal, je suis dans le domaine de l'urgence et nous avons entendu l'ambulance 1h20 à Laval à 17h un soir de semaine. Fait qu'imaginez, là.
Non,
ça n'a pas de bon sens. On est dans un milieu, Montréal, la grande région métropolitaine de Montréal, et des délais comme ceux-là attendent l'ambulance pendant 1h20. Ben voyons donc, il n'y a plus de logique qui tient, là. Il n'y a plus de logique qui tient. Docteur Langlois, il faut aller à la pause. On poursuit notre conversation, si vous le voulez bien, dans quelques instants. Je vous interpelle sur cette question. Est-ce que vous craignez de ne pas être soigné ou vous pouvez simplement partager votre réaction par rapport à cette histoire qui a ébranlé les colonnes du temple du ministère de la Santé cette semaine, ce triste décès au Air Center? 514-790-9850 ou 1-866-790-9850.
Partout au Québec, la parole est à vous. Pour participer à l'Effet Normando, 1-866-790-9850 et sur le web.
Pour vous illustrer le ridicule de la situation, un auditeur qui, sur le ton de l'humour, nous écrit « Lorsque j'appelle Saint-Hubert Barbecue, ça prend 45 minutes. C'est moins long que l'ambulance. » Évidemment, il le fait sur le ton de la blague, mais c'est révélateur. C'est révélateur de notre réalité. Réaction nombreuse de votre part. Je suis un ancien paramédic aux États-Unis, dans le reste du Canada. Il y a des hélicoptères ambulances pour la couverture en région isolée. Au Québec, nous sommes en retard de 20 ans partout ailleurs. Pendant ce temps, ben, moins d'ambulances pour couvrir les vraies urgences. Il dit la prise d'appel au 911, le code Claassen, je ne sais pas ce que c'est, à réviser en profondeur. Moi, je connais une entreprise qui s'appelle AirMedic qui offre ce service-là, mais vous devez être membre, puis c'est un service qui est privé. Il y a l'avion ambulance qui existe, mais peut-être que l'hélicoptère, effectivement, ferait le travail. Docteur Langlois est avec nous, Guillaume Langlois de Bécancourt. Vous demeurez avec nous, Docteur Langlois. On va aller joindre France, auditrice, qui souhaite s'exprimer sur le sujet. Bonjour, France. Bon vendredi.
Bonjour. J'ai une grande question. Comment ça se fait que les urgences, mais on manque de personnel, je comprends, mais c'est pas la nuit qu'il faut fermer ça, c'est le jour. Le jour, il y a des cliniques ailleurs. Pourquoi que l'urgence est là? Moi, ma logique, c'est garder l'urgence ouverte le soir et la nuit pour pallier.
C'est une excellente question, France. Est-ce que vous permettez que je la pose au docteur Langlois? C'est intéressant, oui. Ça, docteur Langlois, votre réaction là-dessus à la question de France?
Mais dans le fond, les urgences, normalement, ça devrait être vraiment, le nom le dit, là, ça devrait être pour des urgences. Et donc, quelqu'un qui fait un arrêt cardiaque, faut pas qu'il aille dans une clinique privée, attendre en ligne ou aller chercher un numéro, là, un rendez-vous sur Bonjour Santé. Tu vas à l'urgence, tu as besoin de soins dans l'immédiat, il faut débloquer. Des fois, ça prend des médicaments, des fois une chirurgie. Si tu fais un accident de la route, tu as un bras cassé, faut pas que tu ailles attendre dans une clinique. Tu as besoin de soins, puis tu as besoin aussi du plateau technique, donc l'équipement de radiographie, l'équipement, les prises de sang, tout ça, tout doit être instantané avec le personnel pour te soigner et des corridors pour les soins spécialisés pour ceux qui en ont besoin, là. Des corridors de service, là, je veux dire, c'est un terme qu'on utilise. Donc, on peut pas fermer les urgences de jour. Comme il y a des gros débits de patients pendant la journée, ben là, si on les ferme, les urgences de jour, il va y avoir plus de décès, c'est sûr. Là, de la nuit, ils ferment certaines urgences en disant on prend la moins pire des situations. Donc, il y a moins de patients qui vont se présenter à 3 heures du matin qu'à 10 heures pendant la journée. Mais quand même, là, le problème, c'est que ça prend quelque chose, là, une solution pour ces gens-là de nuit quand même. Puis c'est sûr que chaque urgence qui ferme, ben ça fait des soins plus loin. Chez nous, ben, à Fortierville, ils ont compensé en mettant une ambulance là, disponible, sauf que je ne sais pas si c'est toujours le cas. S'il y a deux appels en même temps, on se retrouve mal pris, mais là aussi, l'urgence ferme de nuit. Il n'y avait pas beaucoup d'achalandage. Et à un moment donné, il manquait de médecins, donc tu n'as plus assez de gens pour la garder ouverte. Mais là, ce qu'ils ont fait, c'est stationner une ambulance tout près qui est prête à envoyer ces patients-là qui ont des problèmes vraiment urgents, graves, majeurs de nuit, puis que ça prend une consultation rapide. Donc, c'est pour ça qu'on ferme certaines urgences de nuit, mais normalement, ça prend des plans B. Le problème, c'est qu'on n'a plus les ressources là, avec le manque, la pénurie de personnel. Nous, là, ça fait 25 ans qu'on la vit. Fait que c'est sûr que quand on en rajoute une couche dans l'ensemble de la société, ben, ce que vous vivez maintenant dans toutes les entreprises, ben, on vit avec ça. Moi, ça a été mon quotidien depuis que je suis là. À l'urgence à Nicolet, quand j'ai commencé il y a 15 ans, je faisais beaucoup d'urgences. Puis, à tous les mois, on était dans les médias parce qu'il y avait des fermetures, des découvertures de services. Malgré le fait qu'on faisait des heures supplémentaires à n'en plus finir, on n'arrivait pas à couvrir. Nous, à Nicolet, ben, on a réglé le problème, principalement par le recrutement, l'enseignement. L'unité d'enseignement qui est arrivée à Trois-Rivières a fourni là, la plupart des nouveaux médecins. Mais là, c'est pas tant une pénurie de médecins qu'on voit, c'est rendu une pénurie d'infirmières, de préposés. C'est plus juste une pénurie de médecins à laquelle on assiste. Fait que le problème est rendu encore plus complexe. Mais la solution, il n'y en a pas 25 000. Là. La population du Québec augmente de 100 000 par année. Il faut que les professionnels de la santé puis notre système suivent. Il faut augmenter. Il ne faut pas juste maintenir notre nombre de professionnels de la santé. Il faut en avoir plus, puis il faut les bien les former, puis après ça, ben il faut que les gens puissent être dirigés aux bons endroits, puis tout ça, c'est excessivement compliqué à gérer par un gouvernement central qui agit tout le temps. Une fois que la crise est là, ben il est trop tard, la crise est là. Ils vont peut-être trouver une solution pour Sainte-Terre, mais après ça, il va avoir, ça peut être chez nous, ça peut être ailleurs, ça peut être en Estrie, puis là, whoop, ils peuvent pas les voir venir à l'avance, les crises. Ouais. Ça prend plus de gens, c'est sûr.
Il y a Nancy, parce qu'évidemment, il y a le cas de Sainte-Terre, mais Nancy nous raconte qu'en 18-19, là, elle a attendu une ambulance 4 heures pour son mari, et c'est elle-même qui a conduit son mari aux urgences à Laval. Fait que donc, dans le fond, la réalité là, connue, vécue malheureusement par cet homme qui nous a quitté, Richard Genet de Sainte-Terre, n'est pas unique aux régions dites éloignées. Je dis bien dites éloignées, c'est pas une expression que j'aime beaucoup, mais enfin. Si vous permettez, Dr Langlois, on va aller joindre Richard, qui souhaite réagir sur ce sujet. Bonjour, Richard.
Bonjour, ça va bien?
Oui, ça va bien, on vous écoute.
Oui, je peux faire un petit préambule?
Oui.
Oui, d'accord. Depuis que la pandémie a commencé, tout au long, on a vraiment visé les erreurs du gouvernement. Mais on souligne jamais la gestion des CIUS, des CISSS puis des CIUS, là. Mais jamais on le précise. Mais je pense que, d'après moi, le cœur du problème, il est là. Une gestion dysfonctionnelle qui est là depuis très longtemps.
Est-ce que vous travaillez dans le réseau, Richard?
J'étais dans le réseau. J'ai été proposé aux bénéficiaires avec la formation de M. Legault.
OK.
D'accord? Je suis pas resté. Ouais. Ben, je suis pas resté là. C'est pas parce que c'est le travail qui est difficile. Ben, c'est le type de gestion traditionnelle qui perdure et qui fait défaut depuis très longtemps, et ça avant la pandémie.
Ah oui. On s'entend là-dessus, là, Richard. Le docteur Langlois dit ça fait 25 ans que ça dure.
Ah oui, je comprends. Mais on ne précise jamais ce point-là au niveau de la gestion. Des CIUS, des gestionnaires qui sont depuis longtemps. Puis les gouvernements avant n'ont pas réagi non plus à ce niveau-là. Donc, les préposés de bénéficiaires, il en manquait bien avant la pandémie.
Oui, effectivement.
Donc, d'accord là-dessus. Mais qu'est-ce qui a été fait pour pallier à ça? Il n'y a pas grand-chose qui a été fait. À ce moment-là, les préposés auraient pu avoir, de manière proactive, une formation complète. Moi, j'ai eu une formation de 375 heures pour agir dans le milieu. Un exemple. Moi, là, j'étais deux jours. Arrivaient les week-ends, on avait deux sur deux étages, on avait 40 résidents à s'occuper. Et puis, quand arrivait le week-end, on se retrouvait 4 pour 40, résidents. Moi, là, j'ai 375 heures. Écoutez, là, j'ai 375 heures. Puis en plus, les week-ends, aucun gestionnaire qui est là. La décision qui est prise.
Voilà.
Écoutez-moi, la décision qui est prise pour ne pas donner de bain aux résidents, ce sont les préposés qui la prenaient. Vous voyez, là, la dysfonction des gestions est là depuis très longtemps. Et là,
On est dedans. Vous avez raison, Richard. On l'a frappé. Certains diront depuis longtemps, mais le cas de Sainte-Terre, effectivement, l'illustre avec énormément. L'illustre de façon dramatique, je vais dire ça comme ça. Merci beaucoup, Richard. Très instructif. Pierre nous écrit, je suis urgentologue à Sacré-Cœur. Lors des matchs du Canadien, l'urgence est vide. Après la fin des matchs, l'urgence se remplit de collégiens qui n'ont pas affaire ici. Un petit ticket modérateur de 5 $ réglerait la situation dans toutes les urgences du Québec. Nous écrit Pierre, qui est urgentologue, je vous le rappelle. Et il y a aussi Annie qui nous écrit, ben c'est bien beau, là, les rendez-vous dans les cliniques, mais le problème, c'est qu'on n'arrive pas à avoir de rendez-vous dans les cliniques. Elle donne l'exemple de ses parents, 88 et 80 ans. La dernière fois, nous avons été obligés d'aller à l'urgence pour une simple infection urinaire. Alors, imaginez. Docteur Langlois, conclusion en terminant. Les premiers répondants, est-ce que c'est selon vous la solution qui permettrait d'assurer une meilleure couverture? Mais encore, il y a un auditeur qui écrit tantôt, il faut que les premiers répondants aient plus de pouvoir également parce qu'ils ne peuvent administrer aucun médicament. Alors, est-ce que c'est un début de solution lié à l'organisation des soins, tout ça? Comment vous voyez ça, en terminant?
Oui, c'est un niveau. C'est un niveau de plus, ça c'est clair. Ça prend les premiers répondants. Peut-être aussi moins bénévoles, peut-être un peu rémunérés parce que là, la plupart du temps, c'est des bénévoles. Hein, puis ils sont ils ont leur déplacement de payer, mais c'est à peu près tout, leur temps de formation. Mais peut-être qu'on pourrait mettre un peu plus de ressources donc pour les motiver, les garder. Mais c'est juste comme une première couche dans les endroits où les gens n'ont pas accès là, à l'ambulance rapidement. Puis, ça c'est une solution. Mais après ça, ça prend des solutions adaptées à chaque endroit. Puis il faut vraiment... les nouvelles unités d'enseignement qui se forment, à chaque fois que j'entends parler de ça dans une nouvelle région, très satisfait parce que c'est ça qui est la clé. À Trois-Rivières, c'est ça qui a sauvé. Là, avant l'ouverture de l'unité d'enseignement, là, il y avait plus que, je pense, 60 000 patients qui n'avaient pas de médecin de famille. Là, ça a baissé en bas de 25 000. J'ai pas les derniers chiffres, là, mais en tout cas, ça va beaucoup mieux. Mais ça l'aurait rayonné sur toute la région autour, y compris à Bécancour. Là, beaucoup des étudiants de chez nous ont été formés à Trois-Rivières. Donc, les unités d'enseignement, après ça, à moyen terme, il faut augmenter le nombre de joueurs, puis peut-être aussi faciliter, parce qu'il y en a beaucoup des professionnels qui veulent aller vivre, aller travailler en région. Moi, je viens de Montréal, j'ai été formé là, puis j'ai décidé de venir vivre en région, mais c'est pas des parcours qui sont tout le temps faciles. Faut monter soi-même ses propres infrastructures d'accueil. Donc, il y a des choses qui peuvent être faites de ce côté-là, au niveau régional, là, sans passer par le ministère de la Santé, mais il faudrait peut-être le faciliter. Moi, ma femme a eu de la misère à venir travailler chez nous, a eu de la misère à obtenir son permis de pratique chez nous parce qu'on n'a pas d'hôpital proche. Il fallait qu'elle fasse des heures à l'hôpital. Fait que j'ai failli vivre dans une autre région que ma femme. Ça n'a pas de bon sens. Elle est médecin aussi, là. Donc, à un moment donné, deux médecins qui veulent venir s'installer d'un village, ben peut-être que ça ne devrait pas être les mêmes processus de réflexion. Puis peut-être pas finalement, c'est tant mieux, là. Puis elle adore travailler à l'hôpital de Victo. Mais sauf que ça a été compliqué pour nous, toutes les démarches. C'est comme si on voulait travailler à Montréal.
Effectivement.
Faciliter le travail en région, puis l'installation des professionnels. Pas juste leur donner des primes, mais faciliter leur installation, leur infrastructure, puis leurs conditions de travail.
C'est très bien dit, Dr. Langlois. Vous nous avez dit beaucoup de choses qui nous font réfléchir et qui nous font prendre conscience des défis qui se dressent devant nous, mais ne sont pas insurmontables, faut-il le rappeler. Merci beaucoup. Excellente journée à vous, Dr. Langlois.
Tout le monde aussi. Bon, au revoir.
Merci. Bye-bye. Médecin de famille de Bécancour. Un des problèmes avec le réseau de la santé, puis on va à la pause, c'est, excusez l'expression en anglais, le one size fit all. Hein? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de sur-mesure. Tout le monde a la même grandeur de camisole, de chandail. C'est comme ça. En Abitibi, à Montréal, tout le monde pareil.
Jusqu'à midi, vous écoutez l'effet Normandeau.
Je vous pose la question suivante ce matin. Est-ce que vous craignez de ne pas être soigné, tout ça dans la foulée de cette nouvelle qui fait énormément jaser, de ce triste décès de M. Richard Genest-Senneterre, 65 ans? Réaction de votre part avec l'urgence de Quaticook qui ferme ses portes la nuit. Ce n'est qu'une question de temps avant que ça arrive encore. Alors évidemment, Senneterre n'est pas un cas d'exception, c'est ce qu'on comprend. Il y a Fortierville également qui n'a pas d'ambulance. Et Cynthia nous écrit, elle est asthmatique, elle dit « Notre pire cauchemar, parce que souvent les crises d'asthme arrivent la nuit, notre pire cauchemar, c'est de savoir qu'on soit obligé d'aller à l'urgence la nuit et de se buter une porte fermée. » Alors effectivement, c'est vraiment très difficile. On va aller, avant d'aller joindre notre prochaine invitée, Marie-Michel, auditrice, qui souhaite s'exprimer sur le sujet. Bonjour Marie-Michel.
Oui, bonjour.
Alors, physiothérapeute hein, de formation, c'est ça?
Ben oui, exactement. Je suis physiothérapeute, puis j'écoutais les réponses à votre question. Puis c'est vrai que dans le problème, c'est au niveau du partage des pouvoirs. Ça fait des années que j'enlève rien aux médecins, que s'il y a une urgence, point de vue entre la vie et la mort, c'est un médecin qui doit s'en occuper, ça c'est sûr et certain. Mais pour tous les petits cas qui s'en vont à l'urgence, les mal de genoux, les problèmes au dos, il y a les physiothérapeutes qui sont extrêmement formés pour aider à ça. Il y a même des projets pilotes qui sont à ce cas-là. On l'a vu dans les journaux dernièrement, que les physiothérapeutes peuvent aider. Et les ambulanciers, ils ont la compétence de faire plein de choses, mais ils ont juste pas le droit de le faire. Même nous, les physiothérapeutes, on peut maintenant prescrire des radiographies, mais ça a été tellement long, tellement compliqué, puis même encore aujourd'hui, c'est compliqué parce qu'il y a des clients qui peuvent même pas se faire accepter par les radiologistes parce que la RAMQ ne rembourse pas des prescriptions de physiothérapeutes. Donc, c'est hyper compliqué. On est pris dans de la bureaucratie, dans de l'administration, dans de la politique. C'est un peu ça le problème en ce moment du système de santé, c'est qu'on est pris dans de la gestion de partage de pouvoir.
Et j'ajouterais, Marie-Michel, les gens travaillent en silo également. Hein? Alors, ça complique
Exactement.
La chose. Ça complique la chose. Mais votre témoignage est extrêmement éloquent parce qu'on parle souvent de partager les actes médicaux. Les auditeurs nous disent qu'il y a les pharmaciens aussi qui peuvent être mis à contribution. Oui. Vous êtes physiothérapeute. Oui, on peut faire notre bout de chemin. Mais le système de santé repose tellement sur les épaules des médecins qu'on a l'impression que notre salut national passe par les médecins alors qu'on pourrait faire les choses tellement différemment.
Exactement, vous avez raison. Puis même, par exemple, pour ma part, en tant que physiothérapeute, dans la majorité des cas, je règle beaucoup mieux le problème que quand que mon client va voir son médecin de famille qui se fait prescrire des anti-inflammatoires, des antidouleurs, puis ça aboutit à rien. Ouais. Donc, c'est vraiment un gros fléau, là.
Merci beaucoup, Marie-Michel. Merci beaucoup. On va aller joindre Patrick Derry, notre invité. Patrick, il est spécialiste, analyste en politique publique. Bonjour, Patrick.
Bonjour Nathalie.
Vous avez entendu, Patrick, le témoignage de ce qu'elle semble jeune, Marie-Michel, jeune physiothérapeute. Honnêtement, là, j'ai tellement hâte du jour où on ne parlera plus de ce genre d'enjeu. Je ne sais pas si ça va arriver, mais c'est tellement triste. Votre opinion sur tout ce qui se passe, entre autres, ben là, notre point de départ, c'est ce décès à Senneterre. C'est l'urgence du CLSC fermé et tout ça. Ce pauvre homme en est mort. Mais au-delà de ça, l'urgence de Quaticook qui est fermée, les problèmes de couverture ambulancière. On consacre presque 53 milliards de dollars au réseau de la santé. Et puis, il y a des gens qui ont de la difficulté à avoir un rendez-vous dans les cliniques, qui n'ont pas le choix d'aller à l'urgence, pas accès à un médecin spécialiste. My God,
c'est décourageant, puis on a l'impression qu'il n'est pas complètement faux. C'est notre système de santé qui était déjà fragile est en train de s'écrouler sous nos yeux. Puis évidemment, le vieillissement de la population n'aidera pas. La dame, la physiothérapeute qui vient de parler, elle touche à un point qui est absolument fondamental. C'est il y a beaucoup d'autres soignants qui sont compétents pour faire des actes qui se ramassent trop souvent dans le bureau du médecin. Et il y a bien des médecins qui seraient heureux s'il n'y avait pas à s'occuper de ces cas-là. Là, on parlait des physios, on pourrait parler des chiropraticiens, par exemple, pour tout ce qui est musculo-squelettique, soit des trucs sportifs ou des blessures qui viennent avec l'âge. Les chiros sont très bons pour ça. Comme les physios, ils peuvent prescrire certains examens d'imagerie, mais qui ne seront pas remboursés par la RAMQ. Fait, qu'est-ce que le patient fait? Ben, le chiro lui dit, j'ai besoin d'une radiographie pour être sûr, que je te fasse le bon traitement. Là, ça coûte, 40$. Ben, ils vont aller au privé. Fait qu'ils vont aller à place au médecin pour dire, écoute, j'aurais besoin d'une prescription pour pouvoir, que le chiro fasse mon examen. Fait que donc, En bout de ligne, l'État ne sauve pas plus d'argent, mais en plus, les disponibilités du médecin sont réduites. Puis on pourrait étendre pour les infirmières, par exemple. Il y a beaucoup de choses à un moment donné que les infirmières pourraient faire. On en a déjà parlé. Quand les infirmières vont dans le nord de la province, ils font tout. Ils font des fractures, des commotions cérébrales, même des accouchements. Je dis pas qu'on doit se rendre là. Il y a une pénurie de médecins dans le nord, mais ça montre que les infirmières sont compétentes pour en faire plus aussi. Mais étrangement, quand ils reviennent dans le sud de la province, ils peuvent plus. Et évidemment, ben on manque de médecins. T'sais. On n'en a pas beaucoup de médecins au Canada en général. On n'a pas beaucoup de médecins par rapport aux autres pays développés. Au Québec, on en a un petit peu plus que dans le reste du pays, mais on les utilise très, très mal. Parce que les médecins de famille prennent beaucoup de temps à l'hôpital. Et c'est environ là, 40 % des tâches des médecins de famille à l'hôpital. C'est énorme. Dans les autres provinces, dans les pays d'Europe, c'est 2 à 3 fois moins. Fait que c'est sûr que si les médecins de famille sont là, ben, on a ce problème-là. Puis évidemment, là, le décès très malheureux du monsieur à Sainte-Terre. Là, évidemment, on manque d'infirmières. C'est présentement, il y avait une compilation qui a été effectuée par le Journal de Montréal cette semaine. Il manquerait à peu près 10 000 infirmières dans le réseau. Il y en a qui sont en congé, il y en a qui sont malades, il y en a qui sont affectés à la COVID et qui sont pas sur leur tâche régulière, et il y en a qui sont juste partis. Fait que c'est... Et en plus, au départ, on avait plus d'infirmières au Québec qui travaillaient en temps partiel que, par exemple, en Ontario. C'est quoi, ça craque de partout.
Ça craque de partout. Il faut aller à la pause, Patrick. Vous demeurez avec nous. Un courriel, Marc, qui nous écrit septembre 2018, après un séjour de 9 jours dans un hôpital de la Californie, 66 000 $ US, et le retour en avion ambulance, 26 000 $ US. Le pilote et l'infirmier nous disent que la seule place en Amérique du Nord qu'ils attendent une ambulance, c'est au Québec. En transport aérien, les transporteurs exigent l'ambulance à l'arrivée parce que les pilotes et infirmiers ne peuvent dépasser X nombre d'heures. Mais le seul endroit en Amérique du Nord où les pilotes attendent après l'ambulance lorsqu'ils arrivent avec un patient, c'est au Québec. Alors, cherchez l'erreur. On va à la pause, Patrick. Peut-être réaction après la pause là-dessus. On vous revient donc avec ce sujet. Est-ce que vous craignez de ne pas être soigné avec tout ce qui se passe, urgence de Sainte-Terre? Des problèmes, c'est que la couverture est inégale d'une région à l'autre.
Jusqu'à midi, vous écoutez l'effet Normando. L'effet Normando. La parole est à vous.
Sylvie, qui vit à 40 minutes de Trois-Rivières, craint de ne pas être soignée. Si elle a une urgence, d'ailleurs, elle dit, s'il arrive quelque chose, moi, j'appelle mon fils pour venir nous conduire à l'hôpital. Et là, elle termine son courriel en disant, ici, les vétérinaires se déplacent pour nos animaux. Elle dit vivement les médecins à domicile. Remarquez que je pense pas que ça arrive, mais la comparaison est fort intéressante. Hein? Les vétérinaires se déplacent. C'est plus facile parfois pour un vétérinaire, pour un animal, d'avoir accès à un vétérinaire, mais drôlement plus compliqué pour un patient ou un malade d'avoir accès à un médecin. Patrick, je reviens à vous, Patrick Derry, analyste en politique publique. Patrick, pourquoi c'est si compliqué de mettre à contribution les professionnels du réseau de la santé et de partager les actes médicaux entre pharmaciens, physiothérapeutes, infirmières, auxiliaires, cliniciennes, praticiennes? Pourquoi c'est si compliqué?
Il y a beaucoup de corporatisme là-dedans, c'est-à-dire que les associations de médecins ont longtemps protégé leur territoire, dont le Collège des médecins, par exemple. Si on se rappelle, il y a quelques années, l'ex-ministre de la Santé, Mécan, avait élargi quand même les compétences des infirmières praticiennes. C'était un bon point de départ. La ministre avait dû faire une clé de bras au Collège des médecins qui ne voulait pas. Et moi, ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde ça, il y a toujours des bonnes raisons pour dire oui, mais tu parles à des médecins, ils vont dire oui, mais mettons qu'une infirmière voit un médecin, puis que là, finalement, voit un patient, puis qu'elle s'en occupe pas comme il faut, qu'elle rate quelque chose. C'est sûr que ça va arriver. Mais il y a un paquet d'études qui ont été faites là-dessus puis qui montrent que quand une population accède plus rapidement à des soins puis qui est prise en charge, par exemple, par des infirmières, même sans voir les médecins pour des maladies chroniques, en bout de ligne, c'est sûr que de temps en temps, il peut avoir des problèmes, comme il y a des problèmes avec des médecins. Parfois, un système de santé va faire des erreurs. Mais il y a une amélioration de la prise en charge, il y a une amélioration des conditions de santé. Donc, c'est pas justifié comme résistance, c'est basé sur des cas d'exception. À place de regarder globalement les gains qu'on veut faire, on regarde chaque fois. S'il n'y a pas de solution parfaite, on ne la prendra pas, plutôt que d'avoir une solution imparfaite, mais qui pourrait améliorer. Et évidemment, il n'y a pas beaucoup de créativité dans les ministères. Si on parle, par exemple, récemment, il y a encore question de problème de l'accès aux médecins de famille. Il y a un Québécois sur 10 qui était inscrit sur une liste d'attente pour un médecin de famille. Ben, c'est complètement surréel. Qu'est-ce qu'on a vu que le gouvernement voulait faire? On voulait reprendre un peu ce qui avait été fait avec le ministre Barrette, c'est-à-dire de dire on va faire des menaces aux médecins pour dire les médecins de famille doivent travailler plus. Ça n'avait pas marché, ça ne marchera pas. mais on pense pas à des solutions qui sont plus créatives. Par exemple, justement, qui a parlé d'abaisser des barrières, d'utiliser des ordonnances collectives, par exemple, que certaines urgences et cliniques font, qui permettent aux infirmières d'en faire plus, de faire venir des médecins d'étrangers. Écoutez, il y a des médecins français qui repartent à un moment donné parce qu'ils sont pas capables de pratiquer au Québec. Il y a quand même un problème. Ah,
c'est un scandale, c'est un scandale, absolument. Parce que tu vois, Patrick, il y a Julie qui nous écrit, j'ai été en Europe, dans tous les villages, il y a au moins une pharmacie avec médecins pharmaciens ouverts 24 heures, consulte pour consultation et médication. On devrait faire ça ici. Parce que c'est pas les solutions qui manquent, là. Ça prendra un méchant coup de pied dans le nid de guêpe du ministère, dans le ministère. Je dis dans le nid de guêpe, mais comprenez, c'est une image pour dire, là, il faut brasser le cocotier. Là. Ça presse.
Oui, il faudrait que le ministère, des fois, se retire la gestion quotidienne, mais c'est sûr que, tu sais, en Europe, par exemple, la France, je pense, j'ai ça de mémoire, quelque chose comme 10-15% de médecins plus que nous. Il y a certains pays d'Europe, c'est 25, 30, 50% de médecins de plus. Ça fait une différence. Évidemment, la dynamique est différente. Moi, quand on parlait des médecins, là, votre invité, le médecin se déplaçait à la maison. Moi, quand j'étais petit, ça arrivait encore que le médecin venait chez nous. Ça existait presque plus, mais en France, c'est encore courant que les médecins se déplacent aussi. Fait que les services de santé sont organisés autrement. C'est pas tout concentré à l'hôpital. C'est sûr que si nos médecins passent beaucoup de temps à l'hôpital, ils ont moins de temps pour faire autre chose. Les modes de rémunération aussi. Tu sais, c'est nono, là, mais avant la pandémie, là, un médecin qui vous appelait, c'est pas payé.
Oui, c'est ça, un médecin, Patrick, c'est ça. Ouais.
En conclusion, mais écoutez, faut sortir de la boîte. Là, moi, je vais terminer sur le réseau hospitalier. On parlait des infirmières, là. Ce qui les fait fuir, c'est le temps supplémentaire obligatoire. Dans les hôpitaux enclos, il n'y en a presque pas. Ils font des quarts de 12 heures. Tout le monde est en rotation pour les nuits et les fins de semaine. On n'a pas entendu le ministre proposer ça, mais ça pourrait aider.
Merci beaucoup, Patrick Derrick, chroniqueur, analyste, politique publique. Excellente fin de semaine. Merci. À bientôt.